Antenne, ding ding dong.
Manifeste de Ding Ding Dong par Alice Rivière pour l'Institut de coproduction de savoir sur la maladie de Huntington. En exergue. Ne regarde pas ce que tu perds, regarde ce que tu gagnes, ma mère. Au tout début, quand le monde ne mesurait pas plus de 50 cm, il eut le visage examinateur de Jeanne. Un visage de 5 ans, tout contre le nourrisson de quelques mois que j'étais alors. Mes yeux opaques de taupe tâtonnent sur ce tout premier paysage, le visage de ma sœur qui me regarde. Elle sourit, je souris, elle sourit. Elle me donne une petite gifle. Je pleure, elle sourit, je souris. Elle me redonne une petite gifle. Je pleure, elle sourit, je souris. Tard dans la nuit, nous fabriquons notre unisson. Un adulte fait irruption. Il voit mon berceau avec moi dedans. Il voit Jeanne penchée sur moi qui me donne une petite gifle. Il me voit pleurer. Il lui donne une petite gifle. Elle pleure, je pleure, nous pleurons. Il se fâche. Il ne comprend pas. Il pense jalousie, agressivité. Je ne sais pas, mais il pense, problème à résoudre, les séparer. Au tout début et pour toujours, les limites du monde, son firmament, son sol et son toit, c'est Violette, qui affronte les choses avec 8 ans d'avance sur moi, autant dire une vie entière. Violette a une vie d'avance sur moi, elle chemine loin devant, immense comme le ciel. Elle dépose partout autour de moi ses phéromones de protection. Quelque chose vibre en elle quand quelque chose vibre en moi. Le contact entre nous, ça marche par résonance, et peu importe qu'elle soit là ou pas. C'est une histoire de cordes tendues et de souffles qui vibrent loin et vite. Très tôt, je sais que l'inconditionnalité de l'amour existe grâce à elle. Je sais en même temps, grâce à elle, que toutes les amours ne se ressemblent pas et que rares sont celles qui ont cette caractéristique de l'absolue inconditionnalité. Je peux être absente des années entières, je peux faire n'importe quoi, m'agiter dans tous les sens. Elle regarde si je suis vivante. Elle me fait parfois doucement des reproches sur la façon dont je me maltraite, et puis elle me laisse aller, m'aimant comme d'habitude, c'est-à-dire sans la moindre condition, absolument. Voilà. Tout contre moi, l'une forme la sensation de moi-même. L'autre, partout autour, me forme la sensation du monde. Danger, sans danger. Longtemps, j'ai cru que ces choses n'étaient pas réciproques. J'ai cru que pour elle, nous étions 3 sœurs, tandis que pour moi seulement, c'était nous 3. J'existe au centre d'une double épaisseur. Et si je veux depuis toujours percer cette épaisseur-là, la trouer, emprunter des voies de fulgurance, à travers cette épaisseur-là, c'est parce que, où que j'aille, elle continue de me border. Quand nous avons su que maman avait la maladie de Huntington, je me suis dépêché. Je suis ainsi, je me dépêche, je bâcle, je fonce. Je brouillonne, parce que tous mes essais erreurs sont matelassés par mes sœurs, ma double épaisseur. Ce n'est pas de la rébellion. Ce n'est pas une contre-réaction par rapport à un excès de protection. C'est exactement l'inverse. C'est parce que l'existence de mes sœurs me protège que je suis doté de ce privilège inouï. Pouvoir, devoir risquer. Quand j'ai foncé dans le gras du test oui-non pour Huntington, tous deux ont sursauté. Elles sursautent souvent au moment de mes précipitations, mais là, elles ont sursauté plus que d'habitude. J'ai regardé leur chair, leur âme tressaillir de frayeur, et ma compréhension déconcentrée des choses a enfin compris qu'il existe dans nous 3 un principe de réciprocité ultra-réactif. Les existences de mes sœurs dépendent aussi de la mienne. Tant que nous avancions dans nos vies à coups d'essais-erreurs respectifs, je n'avais pas réalisé cette réciprocité existentielle. Mais depuis qu'on a su que c'était oui pour moi, non pour Violette, et pour Jeanne, peut-être que non, peut-être que oui, le monde vacille très sérieusement. Le problème, ce n'est pas que je sois affecté. Le problème, c'est que c'est nous trois qui est affecté. Tout peut m'arriver à moi individuellement. Tout doit même m'arriver à moi individuellement. Parce qu'alors rien n'arrive qui ne soit traitable par nous trois. Mais quand cela affecte nous trois, il y a un risque terrible de dissolution irréversible. Voilà pourquoi je commence cette fois par la fin. Peu importe comment ce nous trois s'est constitué, peu importe pour l'instant les millions de minutes qui composent la matière si singulière du nous trois. Ce qui m'importe par-dessus tout, c'est qu'il y a une urgence à traiter ce qui est d'un seul coup menacé de corruption par Huntington. Quand nous avons su, 3 mois après mon résultat, que c'était non pour le résultat de Violette, nous avons été abasourdis toutes les deux de nous retrouver terrassés, alors que nous nous attendions à déborder de joie. Le résultat de Violette était bon, et cela résonnait comme le prolongement de ma conviction intime et inébranlable depuis le début. Violette est épargnée par cette merde. Violette, mon repère, ma très grande sœur, ma petite mère, fondatrice de son propre clan, qui est aussi devenu le mien à cause de la façon dont nous trois s'entortillons en permanence, tout cela est épargné par cette merde. Mais presque en même temps, j'ai brutalement éprouvé le noyau pur de la solitude. Le noyau blanc et silencieux, cette absence soudaine et radicale du monde. Peut-être que lorsqu'on se noie, on rencontre à un moment de sa noyade cette solitude-là. Et alors on sait qu'il n'y a rien de plus réel, rien de plus vrai. La moindre idée, le moindre concept est pulvérisé par l'absolue pureté de cette solitude-là. Je ne m'attendais pas à cette réaction en forme de blessure, de chair déchiquetée. J'étais d'un seul coup, plus que jamais, pollué par Huntington. Ce n'est pas à partir de mon résultat, mais bien à partir de celui de Violette, que les choses ont pris leur sens véritable. Car c'est seulement alors qu'elles ont montré leur vrai visage de corruption du nous trois. Non pour elles, oui pour moi. Et quel qu'il soit, un tragique oui ou un tout aussi tragique non pour Jeanne. Ce que j'essaie de préparer à partir de maintenant, c'est une réponse qui soit compatible avec nous trois. C'est un ni oui ni non, comme ce jeu dont nous raffolions étant petite. C'est une voie non pas de résistance, mais d'invention. Aucune réponse simplement résistante ne pourra échapper à la corruption du nous trois par Huntington. Si nous avons été capables d'inventer nous trois, nous sommes capables d'inventer du ni oui ni non pour Huntington. Huntington. Nous trois avons d'abord su que notre mère l'avait, et c'était compliqué parce que notre mère ne savait pas que nous savions qu'elle l'avait. Il y a bien des années, quand son propre père lui a dit qu'il était malade, il lui a donné un article issu de la presse médicale sur le sujet. Elle l'a lu toute seule, dans son coin, elle n'a rien dit à personne. Et puis elle a fini par faire la prise de sang. Huntington a la particularité d'être une maladie autosomale dominante, ce qui signifie que lorsque l'un des parents est affecté, il y a une possibilité sur deux pour soi de l'être à son tour. Et pour la médecine, on devient alors une personne à risque. Cette maladie est à ce jour la seule maladie neurodégénérative pour laquelle un test présymptomatique est disponible pour les personnes à risque, depuis que le gène responsable a été localisé en 1993. Techniquement, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de faire une prise de sang pour savoir si oui ou non on est affecté par le mauvais gène. Philosophiquement, éthiquement, psychologiquement, existentiellement, il n'y a rien de plus compliqué parce qu'Huntington est une maladie monogénétique dont la pénétrance est complète. Ce savoir porteur du gène, c'est savoir avec certitude qu'on développera la maladie un jour, mais sans savoir comment ni quand. Entre 35 et 50 ans, d'après les statistiques, sans savoir si c'est dans 3, 5, 10, 15, 20 ans si on a de la chance. Ma mère a fait la prise de sang et elle a mis 2 ans à aller chercher le résultat. C'était il y a 10 ans. Elle a appris qu'elle était porteuse, puis malade, de cette même histoire qui était en train de rendre son père complètement handicapé. Et elle ne l'a dit à personne pendant tout ce temps-là, surtout pas à nous, à personne, pendant 10 ans. C'est très difficile à imaginer. La solitude de ma mère, tout ce temps, ma mère absolument seule face à cette affaire. En tout cas, moi, je ne peux pas l'imaginer. Quand j'essaie tout de même, je pleure instantanément de compassion. C'est tout ce que j'arrive à faire. Ma pensée s'arrête et j'ai atrocement mal pour elle à cet endroit-là. Bien plus tard, quand on lui a demandé pourquoi elle ne nous avait rien dit pendant tout ce temps, elle nous a répondu simplement qu'elle voulait nous protéger. Vous dire une chose pareille alors que vous aviez 20 ans et des poussières, ça va pas à la tête? Pourquoi aurais-je fait une chose pareille? Elle voulait épargner nos 20-30aines. Nous le dire, ne pas nous le dire, c'était une décision impossible pour elle. Et à la place, on a dû deviner. Et c'est ce qu'on a fait. Après toute son année où on l'a vue se dégrader physiquement et psychologiquement sans comprendre ce qui lui arrivait. Quand le mot est finalement sorti, quand nous avons compris qu'il y avait Huntington qui traînait dans la famille et que notre mère était affectée, moi je savais un peu ce que c'était à cause de mes études de psychologie. J'avais détesté le cours de maîtrise sur les maladies neurodégénératives, un cours en forme de brochette empoisonnée. Sclérose en plaques, Alzheimer, Parkinson, Huntington. En réalité, c'était plus un cours sur le handicap qu'autre chose. Les maladies neurodégénératives génèrent les handicaps physiques et les troubles physiques, psychiques, puis suivants, blablabla, bla, vous n'y pouvez rien, personne n'y peut rien. Est-ce que vous pouvez faire de mieux, futur soignant, c'est de faire travailler au sujet handicapé le deuil de sa normalité. Il s'enfonce de plus en plus dans son anormalité, mais il ne se rend pas compte, et là vous devez l'aider à réaliser ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il a des choses en moins, ou bien il s'en rend compte mais il ne l'accepte pas, et là il faut l'aider à faire le deuil de tout ce qu'il est en train de perdre. Il avait fallu que je prenne ça en note, puis que je le réécrive sur ma copie le jour de l'examen pour avoir la moyenne. Et je me rappelle que j'avais inventé une cérémonie exorciste juste après pour me nettoyer de cette espèce de pollution par l'ânerie. Dans ces cours, on apprenait à transformer les gens en quiconque. Ce n'étaient pas des cours de psychologie, c'était des cours de quiconquisation. Et ça me mettait déjà pas mal en colère. Mais quand je suis passé de l'autre côté de la barrière, 2 ans plus tard, quand je suis devenu moi-même de la matière à quiconquisation par la médecine, j'ai beau avoir été en colère, j'ai beau avoir travaillé dans le milieu et avoir déjà beaucoup réfléchi sur ce sujet, sur la puissance capturante et vidante de certaines pratiques médicales, par exemple, cela ne m'a pas protégé de la redoutable puissance de la machine médicale à me quiconquiser. Pas du tout. Au moment où nous apprenons sa maladie, mes sœurs et moi devons d'un seul coup revisiter les 15 dernières années de la vie de notre mère, les 15 dernières années de notre vie respective, les 15 dernières années de nos rapports avec elle. Beaucoup de son comportement étrange s'explique très différemment du fait de cette annonce. Nous sommes en même temps projetés tout contre nos devenirs à nous, qui se trouvent au même instant, en une seconde et à jamais, complètement distordus par cette annonce. Il y a Huntington qui traîne dans la famille. Et chacune d'entre nous l'a peut-être, une putain de chance sur 2. Nous trois est régulièrement traversé par de grands mouvements d'agitation à ce moment-là, par des coups de colère, mais c'est rarement en même temps. Et il y en a une furax, une zen, et une entre les deux, et les rôles changent selon les moments. Mes sœurs et moi fonctionnons toujours ainsi. Nous dansons chacune en solo, à tour de rôle, et nous ne nous engageons que très rarement dans des numéros en trio. L'une part en exploration des limites qui fâchent, tandis que les autres restent en position de retrait, pour garder la base. Quand j'apprends la maladie de ma mère, je parle beaucoup, je suis fatigué, je crois tout le temps comprendre mieux, plus fort, plus loin, mais parfois je trébuche avant de m'étaler de tout mon long, de très haut, et alors le sens, tout le sens bâti pendant tout ce temps, se vide dans le caniveau. Je me retrouve parfois très écœuré par tout ce travail, comme une indigestion. Ce sont des moments où je deviens un peu plus silencieuse que d'habitude, où je ne sais plus que me répéter, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne sais plus par où faire redémarrer la pensée. À ce moment-là, nos interlocuteurs ne sont pas nos parents. Notre père est en train de se faire opérer d'un cancer et notre mère ne sait pas encore que nous avons compris ce qui lui arrive et nous ne savons pas comment nous y prendre pour le lui dire. Avec ma sœur aînée, nous allons consulter une psy dans un service de neurologie spécialisé sur la maladie pour nous renseigner, pour prendre conseil quant à la conduite à tenir avec notre mère. Comment lui dire que nous savons? Est-elle consciente de ses troubles? Comment faire pour ne pas la heurter? La psychologue, qui ne l'a jamais rencontrée, nous répond depuis sa blouse blanche que notre mère est démente de toute façon et qu'elle ne se rend compte de rien. Quelle que soit la manière de vous y prendre avec elle, ça ne changera rien, puisqu'elle est anosognosique. Ce mot sinistre poisse le cœur de la moindre description de Huntington, en tout cas en France. Il signifie que le malade est inconscient des symptômes psychiatriques et physiques terribles qu'occasionne chez lui cette maladie. La psychologue nous déclare que notre mère est anosognosique. Avec un sourire empreint de cette bienveillance qui tâche, puisqu'elle est une extraordinaire clôture. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ainsi, et c'est pour votre bien. Il faut que vous vous y fassiez. Quant à nos risques, elle nous suggère de nous figurer une pièce de monnaie. Tout notre dilemme actuel tient à une histoire de pile ou face. Nous quittons son bureau plus abasourdi que jamais. Je pars m'enterrer en un lieu reculé, j'ai besoin d'être seul. Je ne fais rien d'autre que de m'enfermer dans Rachmaninoff, dans son langage de bataille pendant 2 semaines. Je me mets à l'envers et pour finir, je prends la décision de faire le test. En tout, j'aurai réfléchi 6 semaines. J'ai été d'abord pour faire le test, puis j'ai été contre et finalement j'ai été pour savoir. On n'est pas fait pour connaître son destin à l'avance, dit un spécialiste de la question. Je suis d'accord, mais quand on a la possibilité de le savoir tout de même, on devient instantanément un peu différent, comme être humain. Je désirais savoir pour ne pas être malade, pour écarter la maladie et la maladie de moi. J'étais persuadée de ne pas être porteuse. Je ne le disais pas tout haut, mais j'étais à la fois effrayée et sûre de moi. Je n'ai pas ce truc. Si je l'avais, je l'aurais senti. Je le sentirais. Mais sentir quoi? Je l'ignorais, justement. Je savais aussi que tant que je ne ferais pas le test, je serais hanté par le doute, comme une maison peut être hantée par un fantôme, très encombrant qui ne cesse de le perturber nuit et jour. À ce moment-là, Jeanne est moins effrayée que Violette et moi. Elle n'est pas allée avec nous voir cette psy de l'hôpital. Elle n'est pas contaminée. Elle a un rapport plus simple et plus franc avec tout ça. Et un beau jour, sans préméditation, elle parle à notre mère. Elle débouche le champagne, parce que chez nous le champagne a toujours accompagné les moments de révélation, et elle lui dit que nous savons qu'elle est malade. Elle lui raconte où nous en sommes, et tout le monde pleure, non pas tant de tristesse que d'attendrissement. Nous nous retrouvons après toutes ces années d'éloignement insensé, nous sommes à nouveau ensemble. C'est un soulagement extraordinaire, et immédiat pour notre mère de ne plus être seule avec cette histoire, parce qu'elle redoutait terriblement nos réactions. Parce qu'elle s'en voulait de ne pas nous le dire, et qu'elle en serait encore plus voulu de nous l'avoir dit, parce qu'alors forcément, cela aurait empoisonné nos vies. Nos vies, ce qu'elle a de plus cher au monde. Le comportement de notre mère est l'inverse de la prédiction faite par cette psychologue spécialiste de la maladie de Huntington. Elle sait très bien ce qui lui arrive, elle n'est pas du tout démente, elle peut tout comprendre si nous communiquons correctement avec elle. C'est là une de nos premières leçons. Penser quelqu'un comme anosognosique, a priori, comme la psychologue nous incitait à le faire avec notre mère, génère de la confusion, des malentendus, de la séparation. Nous, normal, toi, anormal. Cela retranche cette personne dans un monde qui n'est plus tout à fait le nôtre et qui est en effet celui de l'anosognosie. Je ne sais pas si l'anosognosique existe systématiquement dans la maladie de Huntington, mais je sais que la conviction de sa présence dans cette maladie et tous les comportements vis-à-vis de malades qui sont induits par cette conviction génèrent leur propre lot d'anosognosie. L'anosognosie commence alors à devenir pour moi un des grands suspects de cette affaire.